Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Et après les zones rouges, voici les zones super rouges ou même écarlates. Le ministre de la Santé présentera tout à l'heure une nouvelle carte de France qui permettra aux préfets de prendre des mesures supplémentaires face au rebond de l'épidémie.
On verra quel est l'arsenal disponible, les restrictions susceptibles d'être mises en place et quelles sont les régions surtout concernées.
Le congé paternité va bien doubler pour passer à 28 jours, dont 7 obligatoires afin que tous les pères puissent le prendre, quelle que soit leur situation.
Une nouvelle politique d'accueil des migrants au sein de l'Union européenne, plus solidaire mais aussi plus ferme.
Et puis la disparition d'un monument de la gastronomie française, Pierre Troisgros, le légendaire chef étoilé de Roanne. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,62% à 4802 points.
La tendance météo avec Anissa, c'est réjouissant, hein, des nuages, du vent et de la pluie.
Et bah c'est le menu parfait d'un automne. Attention sur le nord-ouest, demain nous attendons le premier épisode de vent fort de la saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le temps des décisions difficiles est-il venu? En tout cas, les mesures sanitaires vont sans doute se durcir encore un peu plus.
Oui, sans doute, puisque Olivier Véran doit faire des annonces d'ici une heure avec deux nouvelles zones rouges. On parle même de zones super rouges ou écarlates. Ça donne une idée de l'inquiétude des pouvoirs publics.
Anne Le Gall, très concrètement, on s'apprête donc à passer au niveau supérieur. Ça concerne qui? Et qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, il devrait effectivement y avoir ce soir une nouvelle couleur rouge écarlate sur la carte de France, couleur qui correspond aux zones de plus fort niveau de circulation du virus. Paris et Marseille pourraient être concernés. Le point commun entre ces villes, c'est que le taux d'incidence du Covid-19 y est actuellement supérieur à 200 cas pour 100 000 habitants, contre 94 en moyenne sur l'ensemble de la France.
Et du coup, quelles mesures pourraient être annoncées, Anne?
Alors, parmi les options sur la table que pourrait évoquer Olivier Véran, on parle de grands événements limités à 1000 personnes au lieu de 5000 actuellement, de l'interdiction de rassemblement dépassant 10 personnes sur la voie publique, de l'interdiction de vente d'alcool à partir de 20h. Les zones écarlates pourraient aussi s'inspirer des restrictions déjà mises en place à Bordeaux, Nice ou Lyon. Interdiction des soirées dansantes, y compris pour les mariages, sorties scolaires et fêtes étudiantes suspendues, par exemple.
Alors justement, vous le disiez, des mesures ont déjà été prises dans plusieurs régions, Marseille, Bordeaux, Lyon. Est-ce que dans ces grandes villes, Anne, il y a déjà des résultats?
Alors, ça fait presque 10 jours que les restrictions ont été annoncées à Bordeaux et Marseille. Et quand on regarde les courbes d'incidence du coronavirus autour de ces villes, les courbes redescendent effectivement, ce qui semble encourageant. Le virus est aussi un peu moins présent à Nice. Un bémol pour Lyon, cependant, on ne constate pas encore d'amélioration.
Merci pour toutes ces précisions. Anne Le Gall du service Société d'Europe 1. Et notez qu'à Bruxelles, le port du masque ne sera plus obligatoire à partir du 1er octobre, mais quand même fortement recommandé.
Une crise qui a particulièrement affecté, on le sait, le secteur des loisirs et de la fête. Les discothèques, par exemple, sont toujours fermées.
Et une centaine de patrons de boîtes de nuit et de salariés venus de toute la Bretagne se sont retrouvés aujourd'hui à Rennes pour alerter sur la situation catastrophique dans laquelle ils se trouvent, François Coulon.
Voyez, ces professionnels de l'explosion des décibels ont choisi le silence absolu pendant une heure devant la mairie pour clamer leur désarroi. 25 000 foyers en difficulté, peut-on lire sur une pancarte. Témoin Jessica Chaplin, gérante de la discothèque Le Vogue à Lorient.
10 salariés au chômage, nous sans revenus, moi et mon mari, depuis le 14 mars. Aucune charge de payer, on attend les aides de l'État. 1 500 € par mois sur les 3 mois, c'est rien du tout. Ça paye même pas un loyer. Nous, on fait comment pour manger? Quand on y pense, ça fait peur.
Alors, certains des 150 patrons de boîtes de nuit bretonnes ont bénéficié de prêts garantis par l'État, mais pas tous. Cyril Copin, président du collectif régional.
5% des établissements ont déjà déposé le bilan, 21% sont en redressement judiciaire. Depuis 6 mois, nous n'avons plus de chiffre d'affaires et nous n'avons plus de rémunération.
Il y a des aides de l'État?
Aucune pour l'instant, certaines nous ont été promises le 24 juillet. Nous attendons toujours les protocoles pour pouvoir y accéder. Ces aides portent sur les mois de juin, juillet, août et nous sommes dans l'inconnu à partir du 1er septembre.
Voilà, nous sommes des pestiférés, dit une autre banderole en ligne de mire, l'émergence d'un mouvement national des patrons de discothèques en détresse.
Un reportage de François Coulon à Rennes.
18h04, c'est confirmé, dès juillet prochain, les papas français auront donc le droit de rester 28 jours auprès de leur bébé.
Oui, la France rejoint les pays européens les plus en pointe sur la question. 1 mois, dont 7 jours obligatoires, précision aujourd'hui d'Emmanuel Macron.
Avec l'objectif de favoriser la proximité et l'implication évidemment des pères dans l'éducation de leurs enfants.
Alors ce sont des arguments que comprend tout à fait François Asselin. Il est le président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Mais il s'inquiète quand même. Comment les patrons vont-ils réussir à gérer ces nouveaux congés?
Nous ne sommes absolument pas opposés au fait de pouvoir élargir les congés parentaux. Mais attention, dans la petite entreprise, eh bien, il y a des problèmes d'organisation tout à fait concrets qui seront sans solution Lorsque vous êtes artisan boulanger, par exemple, que vous avez un seul salarié, que s'il vous quitte pendant 28 jours, que vous ne pourrez pas le remplacer, eh bien, vous n'avez pas de solution, sinon que d'essayer tant bien que mal de compenser, vous, l'indépendant, le boulanger, pour faire en sorte que vous puissiez continuer à faire tourner votre commerce. Lorsque vous êtes restaurateur, que votre chef de cuisine part pendant 28 jours, comment faites-vous ?
Voilà, François Asselin avec Olivier Samin du service économie d'Europe 1. On vient d'entendre ces arguments et pourtant, pour Hélène Périvier qui est économiste à l'OFCE, les patrons n'ont pas vraiment de raison d'avoir de telles inquiétudes.
C'est de toute façon une bonne chose, ça va dans le bon sens. L'allongement du congé paternité ou du congé second parent, c'est un droit social supplémentaire qui était étendu. C'est un progrès très intéressant. Le remplacement, évidemment, on n'est pas là pendant un mois, bon, c'est vrai, du congé maternité. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, tout ça se prévoit en amont. Quand on va avoir un enfant, le plus souvent, on l'anticipe plusieurs mois avant. Donc, en termes d'organisation du travail, je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées assez facilement. Personne n'est irremplaçable pendant un mois. Voilà.
Hélène Périvier, économiste à l'OFCE, jointe pour Europe 1 par Ève Roger.
Dans l'actualité également ce soir, l'Europe au chevet de la politique migratoire.
On a vu ces derniers mois combien la situation était souvent compliquée, voire inextricable, et les divisions nombreuses entre les États membres.
Oui, il fallait donc trouver un compromis entre contrôle et solidarité. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. La Commission européenne a donc présenté son pacte migratoire qui tient compte des rapports de force en Europe, avec l'accent mis tout de même sur la fermeté.
Oui, officiellement ici, les mots d'ordre sont solidarité et responsabilité, mais c'est clair que cette réforme de l'asile reflète avant tout la sensibilité des opinions publiques sur l'immigration et les nombreuses résistances sur le continent, ce que dénoncent d'ailleurs déjà les ONG. Exemple, avec le nouveau mécanisme de solidarité, fini les quotas obligatoires de migrants dans chaque pays, les pays de l'Est n'en voulaient pas, le vice-président de la Commission, Margaritis Kinas, en a tenu compte.
Nous avons cherché une solution entre les lignes rouges des uns et des autres. Et cela passe par un nouveau concept que nous avons baptisé « parrainage des retours ».
Voilà, les pays qui ne voudront pas de réfugiés pourront, à la place, prendre en charge les expulsions de ceux dont la demande est rejetée. À l'arrivée aussi, l'accueil devra être plus encadré. Tous les migrants seront enregistrés sous 5 jours. Ceux dont la demande paraît douteuse devront rester enfermés pour éviter qu'ils ne s'enfuient. Au bout de 3 mois maximum, ils seront fixés et si nécessaire, renvoyés chez eux, explique la commissaire aux affaires intérieures Ylva Johansson.
Cela va créer une situation dans laquelle ceux qui savent qu'ils n'auront pas le droit d'asile réfléchiront à deux fois et même plus avant d'entrer illégalement en Europe. C'est clairement notre objectif.
Ces textes vont maintenant être décortiqués par les 27 États membres. Arriveront-ils à s'accorder après 5 ans de discorde ? Ça sera l'enjeu des prochains mois.
On suivra ça effectivement. Merci Isabelle Horry en direct de Bruxelles.
Oui, contrairement aux idées reçues, ce nouveau pacte migratoire pourrait diviser encore un peu plus l'Europe. On en parlera tout à l'heure avec les grandes voix à 18h30.
Europe 1, Julien Bugier.
À suivre, 18h08 dans votre journal, la disparition d'un monument de la gastronomie française, le chef triplement étoilé, Monsieur Pierre Troisgros.
Et puis l'Amérique qui se recueille devant la dépouille de la juge de la Cour suprême décédée vendredi dernier.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite de votre journal, Isabelle Millier à 18h10, le monde de la gastronomie, Isabelle, pleure ce soir l'un de ses plus grands chefs.
Et oui, Pierre Troisgros, triplement étoilé dans son restaurant de Roanne dans la Loire, est décédé aujourd'hui à l'âge de 92 ans. Une histoire de cuisine, bien sûr, mais aussi une histoire de famille, Jean-Luc Beaujon.
Et oui, car c'est avec son frère Jean qu'il monte son restaurant de Roanne, la maison Troisgros, à la fin des années 50, reprenant l'affaire de leurs parents Jean-Baptiste et Marie. Très vite, ils obtiennent leur première étoile au guide Michelin, puis la deuxième en 65 et enfin, 3 ans plus tard en 68, la troisième étoile. Alors Pierre Troisgros, c'était une gastronomie de haut vol, de la grande cuisine classique à la française. C'est une grande perte, estime Georges Blanc, célèbre chef 3 étoiles à Vona dans l'Ain.
J'ai pensé avec beaucoup de tristesse, Saint-Pierre, c'était un des piliers de la haute cuisine française. Le plat marquant dans les années 68, quand ils ont eu leur 3e étoile, c'était le saumon à l'oseille, bien sûr, la côte de bœuf au fleuri. Voilà, c'était la grande cuisine française de l'époque, un peu classique. Vraiment, c'est un personnage légendaire. Il avait toujours un mot pour nous faire rire, il racontait plein d'histoires. C'était un bout en train incroyable. C'était non seulement un artiste de la cuisine, mais il était d'une très agréable compagnie.
Et justement, la compagnie que Pierre Troisgros adorait, c'était celle de Paul Bocuse, une amitié de 70 ans entre les deux hommes et une même façon de faire la cuisine. Il y a 2 ans, c'était d'ailleurs lui qui avait pris la parole lors des obsèques de Monsieur Paul à Lyon. Avec la mort de Pierre Troisgros, c'est donc un nouveau monument de la gastronomie française qui s'en va, même si, là aussi, le témoin a été transmis, puisque c'est le fils Michel Troisgros qui est depuis plusieurs années déjà aux commandes du nouveau restaurant de Roanne, où travaille aussi le petit-fils César Troisgros. Vraiment, effectivement, c'est une histoire de famille.
Merci Jean-Luc Beaujean, correspondant d'Europe 1 à Lyon.
De l'autre côté de l'Atlantique à présent, l'hommage de l'Amérique à la juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg.
Oui, la magistrate icône féministe et progressiste décédée vendredi à 87 ans. Depuis une heure maintenant, les Américains peuvent se recueillir face à sa dépouille devant la Cour suprême. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Oui, le cercueil de Ruth Bader Ginsburg, recouvert du drapeau américain, trône en haut du grand escalier, encadré par les immenses colonnes blanches de la Cour suprême où elle a servi pendant 27 ans. Une mise en scène très solennelle, à la hauteur du traumatisme provoqué par sa mort, explique Catherine McGregor, une américaine francophone originaire de l'Idaho.
C'est triste. Enfin, moi, j'habitais ici quand Kennedy est mort, en 62. Alors, ça fait un peu le même effet. C'est quelque chose d'énorme, une tristesse. C'était quelqu'un de bien que le pays a perdu.
La foule défile lentement au pied des marches. On marque une pause devant le cercueil. Certains ont apporté des fleurs, des panneaux remerciant la magistrate, icône des progressistes. Certains sont même venus de très loin, comme Kate, arrivée hier de Caroline du Sud. 6h30 de route, mais chaque minute valait le coup, dit-elle.
Sad, but also inspired.
Kate se dit à la fois triste et aussi inspirée.
Women's rights are under attack in our country.
Les droits des femmes sont toujours attaqués dans ce pays. Rose a commencé le combat, c'est à nous de le continuer, explique-t-elle, arborant son t-shirt avec le visage de la juge surmonté d'une couronne. Dans la file d'attente, c'est son remplacement probable par une juge ultra-conservatrice qui nourrit les conversations. Une mère s'inquiète pour l'avenir de sa fillette de 3 ans, déguisée en RBG avec une petite robe noire, un col en dentelle blanche et qui répète « Je suis Ruth Bader Ginsburg ».
Xavier Vaughan, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Il était hospitalisé depuis le 22 août à Berlin. Certains parlent d'un miraculé. L'opposant russe Alexei Navalny est donc sorti ce matin de l'hôpital. Et il pourrait finalement n'avoir aucune séquelle après son empoisonnement.
Il va pour l'instant rester en Allemagne pour la suite de son traitement. En tout cas, il a posté effectivement une photo de lui aujourd'hui sur Instagram. Et franchement, ça a l'air d'aller plutôt bien.
Le très controversé président biélorusse Alexandre Loukachenko a lui prêté serment pour un 6e mandat lors d'une cérémonie tenue secrète. C'est dire l'ambiance qui règne dans le pays.
Et l'Allemagne aujourd'hui refuse de le reconnaître, faute, dit-elle, de légitimité démocratique. Et puis, les tensions entre la Turquie et la Grèce, engluées dans leurs différents maritimes, Ankara et Athènes acceptent enfin de renouer le dialogue. Le président turc a cédé sous la pression, nous dira Didier François dans votre journal de 19h.
Merci Isabelle, on vous retrouve à 18h30. Pour le rappel des titres et à 19h pour le grand journal de l'info.